Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.
Bonjour, les jeunes Européens ont-ils confiance dans la démocratie? Si tous ne boudent pas les urnes, chez les 18-24 ans, la participation aux élections est bien plus basse que chez leurs aînés. On va le voir en Allemagne, en France, mais il y a des exceptions. 80% de participation en moyenne, c'est la mobilisation des jeunes aux élections en Norvège. Un taux que bien d'autres pays peuvent envier, mais qui ne doit rien au hasard. Toutes sortes d'actions sont mises en place pour intéresser les adolescents et les enfants à la vie politique. Couplée au vote anticipé, très répandu dans le pays, la stratégie se révèle payante. Les législatives de septembre dernier l'ont confirmé. Reportage à Oslo, Frédéric Faux.
Sur toutes les places de Norvège, plusieurs semaines avant le scrutin, les partis politiques installent des stands pour aller à la rencontre des électeurs. C'est une tradition, comme dans beaucoup de pays en Scandinavie. Et parmi les visiteurs les plus assidus, il y a les enseignants, comme Gustave, venus avec leur classe.
Oui, ça fait partie du programme de leur apprendre des choses sur la démocratie et les bienfaits du système norvégien, sur les différents partis, les partis rouges à gauche, les partis bleus à droite. C'est important car ils vont grandir et devenir des citoyens.
Et les enfants, malgré leur jeune âge, ont déjà compris l'essentiel du débat.
Ils ne s'aiment pas car ils ne sont pas d'accord sur les impôts. Les riches ne veulent pas donner plus d'impôts à l'État.
Elle sait tout.
Et il ne s'agit pas d'une simple balade pendant laquelle ils reçoivent des petits drapeaux ou des friandises distribuées par les partis politiques. Carnet et crayon à la main, ils posent des questions préparées en classe. Et Béatrice, représentante des Verts, répond avec plaisir.
Ils sont intéressants, ils se sont préparés avant de venir, donc ils savent ce qu'ils vont demander.
Et quand il s'agit des Verts, beaucoup de questions portent évidemment sur un thème qui préoccupe la jeunesse norvégienne.
Ils sont très intéressés par la crise climatique. Nous proposons par exemple l'arrêt de l'exploitation du pétrole en Norvège en 2035.
Quelques mètres plus loin, un groupe de jeunes immigrés a entamé un long tête-à-tête avec le représentant du Parti du Progrès, une formation populiste qui pense qu'il y a trop d'étrangers en Norvège. Mais Gert, paquet de tracts à la main, ne se démonte pas.
Vous savez, elles peuvent voter aux élections locales. Je leur ai parlé d'immigration et de la politique d'asile. Nous voulons fermer les frontières. Mais je leur ai aussi expliqué que ceux qui sont déjà en Norvège, nous voulons les aider. Leur proposer des cours gratuits de Norvégiens pour qu'ils puissent aller à l'école et ensuite travailler.
L'une des raisons de l'intérêt de ces jeunes trouve son origine au sein même de l'école. La Norvège est l'un des rares pays dans le monde à organiser dans tous ses lycées depuis 1989 des élections qui précèdent les vraies élections nationales et locales, avec les mêmes candidats, les mêmes partis. Le résultat ne compte pas, mais le vote se déroule exactement comme celui des adultes. Et c'est tout l'intérêt, comme l'explique Karl Skor, en charge de ce scrutin au ministère de l'Éducation.
Ça commence dans la salle de classe où sont abordés différents sujets autour des élections et de la démocratie. Puis les représentants jeunes des partis politiques sont invités pour un débat et on vote de la même façon que pour les vraies élections. Il faut présenter sa carte d'identité, choisir un bulletin. Le décompte se fait à l'école et les résultats sont centralisés. Donc on peut savoir comment ces jeunes ont voté dans tout le pays, dans chaque région et au niveau de chaque lycée. Ça doit vraiment se dérouler comme de vraies élections. Comme ça, ces jeunes, quand ils seront en âge de vraiment voter, ils connaîtront le fonctionnement du système. L'idée, c'est que les jeunes s'engagent le plus tôt possible.
Le résultat ne compte pas, nous l'avons dit. Mais lorsqu'il est annoncé, quelques jours avant le vrai scrutin, il est abondamment commenté.
C'est dans tous les médias et tous les partis politiques sont vraiment intéressés par ce vote des lycéens, car il annonce souvent le vrai vote. On voit les mêmes tendances avec plusieurs années d'avance.
C'est pour ça que les partis en Norvège préparent cette échéance aussi sérieusement que les législatives ou les municipales, avec tout un dispositif destiné à ceux qui ne sont pas encore des électeurs, comme nous l'explique Gert.
Nous envoyons beaucoup de militants dans toutes les écoles de Norvège qui expliquent à tous notre politique. Nous avons aussi une section jeunesse du Parti du Progrès où l'on peut adhérer dès l'âge de 13 ans.
Une introduction à la démocratie en conditions réelles qui explique peut-être pourquoi le taux de participation dans ce pays est particulièrement élevé. Pour les dernières élections, 77,2% des Norvégiens se sont rendus aux urnes.
En Allemagne, les moins de 30 ans ne représentent que 9% de l'électorat. Aux dernières législatives, les électeurs de plus de 50 ans, soit 58% de la population, ont voté massivement pour les deux grands partis traditionnels. Et à l'inverse, chez les jeunes, ce sont clairement les Verts, sans surprise, mais aussi les libéraux qui l'ont emporté. Un quart des primo-votants ont donné leur voix au parti libéral FDP. Pourquoi ce choix générationnel ? Élément de réponse avec notre correspondante Déborah Berlioz.
En Allemagne, on s'attendait à ce que les jeunes votent écolo aux dernières législatives, mais on a moins vu venir le succès du FDP parmi la jeune génération. Comme les écologistes, ils ont recueilli 23% des voix des primo-votants. Pourtant, en 2017, les libéraux n'avaient attiré que 12% des 18-24 ans. Mais la pandémie est passée par là avec ses confinements et ses restrictions de liberté. Pendant ces temps difficiles, beaucoup de jeunes se sont sentis oubliés par les politiques. Alors que leurs parents pouvaient continuer de travailler, eux ne pouvaient plus aller à l'école, faire du sport ou voir leurs amis. À part le parti d'extrême droite AFD, les libéraux ont été les seuls à s'insurger contre ces limitations. De plus, la pandémie a bien montré les déficiences de la politique numérique. En effet, le développement de la fibre avance très doucement de ce côté du Rhin, et suivre des cours à distance n'est pas évident avec une mauvaise connexion. Or, ce sujet est au cœur du programme des libéraux. Ils réclament notamment la création d'un ministère de la transformation numérique et une accélération du déploiement de la fibre et de la 5G. Mais d'autres mesures phares de leur programme parlent bien aux jeunes. Comme les Verts, le FDP veut abaisser le droit de vote à 16 ans. Il plaide aussi pour une politique plus libérale en matière de drogue et pour faciliter l'adoption pour les couples non mariés. Encore des points communs avec les écologistes. D'ailleurs, ces deux partis discutent actuellement avec les sociodémocrates pour former un gouvernement. Les jeunes Allemands peuvent donc espérer que leurs voix seront entendues.
On poursuit sur le sujet avec Alice Rougeat qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alice.
Bonjour Juliette.
De façon générale, cette désaffection des jeunes pour les urnes fait qu'on parle carrément de « no vote génération » pour les 18-24 ans. Alors, cette génération Z boude-t-elle la politique ? C'est votre Europe aujourd'hui, Alice.
Oui, si tu as entre 18 et 25 ans et qu'on est en période électorale, tu peux être à peu près sûr qu'au moins deux membres de ta famille t'appelleront pour te dire d'aller voter. Avec la maxime, voter c'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir, comme si on n'avait jamais reçu d'éducation civique et politique. Ah ben non, en fait, pas vraiment.
Et c'est important, les cours d'éducation civique, on l'a vu avec la Norvège, où les jeunes votent massivement.
Oui, en France, après les élections régionales de juin dernier, 8 médias titraient « L'abstention, premier parti des jeunes ». Faut dire qu'il y a du vrai. Ce sont les 18-24 ans qui détiennent le record national, 87% au premier tour. C'était 20 points de plus que dans le reste de la population. Donc oui, proportionnellement, les jeunes ont davantage bouté les urnes. Autre exemple, les élections européennes de 2019. 58% des jeunes européens se sont abstenus. Ils étaient 57% en Italie et 60% en France.
Pour autant, est-ce que ce n'est pas une conclusion hâtive de dire que les jeunes ne votent pas ou ne votent plus ?
Et si, déjà, ça dépend quand même fortement du type d'élection. Les régionales ou les européennes, c'est un peu loin de l'électeur, mais quand il s'agit d'élections nationales, les chiffres sont sensiblement différents. En France, 62,4% des 18-24 ans sont allés voter lors des dernières présidentielles. En Pologne, en 2020, ils étaient 67,2%. Le vote est aussi plus important quand on se sent personnellement touché par un sujet. En Irlande, en 2018, le gouvernement met en place un référendum sur la légalisation de l'avortement. Au total, 60% des Irlandais expriment leur voix. Et chez les 18-24 ans, ils sont 87%, presque tous en faveur de la légalisation. Je pourrais aussi parler des Britanniques. En 2016, 64% des moins de 24 ans ont mis leur bulletin dans l'urne. Donc non, jeunesse ne rime pas forcément avec abstention.
Mais les chiffres que vous citiez au début, ils existent bel et bien. Est-ce que dans une partie de la jeunesse, l'abstention ne vient pas plus largement d'une dépolitisation ?
Là, c'est une vraie rime, Juliette, mais une allégation un peu erronée. La jeunesse s'engage différemment, je vais y revenir. Mais d'abord, ce serait peut-être intéressant de regarder pourquoi elle a tendance à déserter les bureaux de vote.
Absolument. Est-ce que vous avez un début de réponse, Alice ?
Peut-être parce que les thèmes débattus au sein des partis traditionnels sont assez éloignés des jeunesses. D'ailleurs, ce ne sont plus ces partis-là qui séduisent. On vient de l'entendre, en Allemagne, les moins de 24 ans se sont mobilisés en faveur des Verts et des libéraux. Selon différents sondages, l'abstention vient majoritairement d'une défiance face aux représentants politiques. Et plusieurs études montrent qu'à la différence de leurs aînés, les moins de 24 ans ont plus tendance à lire les programmes. Alors, s'ils ne s'y retrouvent pas, ils ne votent pas.
Donc ce n'est pas un désintérêt de la politique.
Oh là, non. Heureusement. Pour beaucoup, la politique prend du sens quand elle est concrète. En s'engageant dans une association de quartier et en faisant des distributions alimentaires, par exemple. Il y a aussi l'action collective. Les mouvements Youth for Climate ou Fridays for Future, nés de grèves scolaires, ont de véritables revendications politiques sur le terrain climatique. Et globalement, on ne peut pas dire que les jeunes s'en fichent. Leur intérêt se manifeste beaucoup sur les réseaux sociaux, les nouveaux terrains démocratiques. Quel que soit le bord politique, ce sont des espaces de débat et d'échange d'informations.
Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réconcilier les jeunes et peut-être les abstentionnistes en général avec les bulletins de vote ?
Vaste question. Certaines pistes sont soulevées, comme la dématérialisation du vote ou le vote par anticipation. En Italie ou en Autriche, depuis quelques années, on parle d'abaisser l'âge citoyen à 16 ans. Il y a aussi des solutions qui viendraient élargir la démocratie représentative, comme les conventions citoyennes ou les conseils citoyens en Belgique. Déjà là-bas, le vote est obligatoire et ces conseils sont composés de citoyens tirés au sort. Leur rôle, définir les sujets que devra aborder le Parlement. Généraliser ces initiatives demande une refonte de nos modèles politiques. Et ça, à part la jeunesse, je ne sais pas vraiment qui aurait les épaules de l'assumer.
Merci Alice Rougeat, à la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous retrouve bien sûr sur le réseau Enter avec les petites vidéos du dimanche. Esta Latvia, Lithuania, Bella, Poland and Ukraine, Moldova, Roman, eat some Bulgari. Greece is pieces, Macedonia, Albany and Kosovo, Montenegro, Serbia and Bosnia-Herzegovina. Renforcer la démocratie participative, c'est aussi un enjeu pour l'Union européenne. Et c'est le but de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps prochain. 800 citoyens de 27 pays se réunissent en panel par groupe de 200 pour faire des propositions concrètes de mesures à mettre en œuvre pour dire dans quelle direction ils veulent voir l'Europe avancer. Fin janvier, ils remettront à la Commission la liste des réformes qu'ils souhaitent. Notre correspondante à Strasbourg, Angélique Ferrat, a suivi l'immersion de ces citoyens dans les arcanes du Parlement européen.
Ils sont un peu comme des écoliers le jour de la rentrée des classes. Ils regardent dans l'air, se perdent dans les couloirs et sont impressionnés par l'hémicycle du Parlement européen. Ces citoyens ont été choisis de manière aléatoire par un institut de sondage en respectant la réalité démographique de chaque pays. Mustapha Rahawi de Dunkerque se retrouve donc à Strasbourg. Gestionnaire de vente pour un groupe commercial, il admet ne pas connaître grand-chose à l'Europe.
J'ai été appelé. Alors je ne sais pas par quel biais ils ont eu mon nom, mon téléphone ou autre. J'ai été appelé, on m'a proposé ça. Alors je vous avoue en toute honnêteté que j'ai été étonné. Moi je pensais que ça allait être beaucoup plus restrictif, qu'on aurait un cadre assez rigide et qu'on ne pourrait pas s'exprimer sur tout un tas de sujets et dans les formes et les fonds qu'on souhaitait. Et au final c'est assez libre. On n'a aucun frein en fait. On a quelques thèmes génériques. Mais on n'a pas de censure, quoi. Enfin, on est vraiment libre.
Jessica Bongabélé, étudiante à Nanterre dans la région parisienne, se dit comme un poisson dans l'eau. Elle n'en revient toujours pas d'être au Parlement européen.
J'arrive pas à voir au quotidien, on va dire, les actions de l'Union européenne dans mon quotidien. À part peut-être la mobilité pour les étudiants, faut bien prioriser. Donc forcément, c'est pas forcément ce que je dis qui sera pris. Mais le fait déjà d'avoir pu donner mon opinion dans un cadre pareil, c'est déjà une grande chance et j'en suis vraiment très très heureuse. Vraiment.
Merci beaucoup, madame.
Les citoyens ne choisissent pas leur groupe ou leur thème de travail. Alors, au moment de la pause café, certains déplorent de se retrouver à disserter sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Petra Karachova est une jeune maman slovaque de 35 ans en congé maternité. Elle se sent un peu perdue.
Ce qui m'intéresse, c'est les valeurs et la démocratie ou la transformation numérique, mais j'ai été mise dans le groupe des questions sociales. Je fais de mon mieux car en Slovaquie, économiquement, on est encore derrière les pays de l'Ouest. On aurait besoin d'un coup de fouet, donc je peux au moins parler de la réalité dans mon pays.
Dernière séance de travail dans l'hémicycle, Beate de Koblenz en Allemagne se dit ravie d'avoir touché du doigt ce qu'est l'UE. Mais il faut plus d'Europe, selon elle.
J'ai remarqué que les gens ont un peu les mêmes idées. Ça me dit que d'autres trouvent cela important. J'ai toute ma vie connu l'Union européenne. Elle doit aller plus loin, pousser plus loin et surtout faire connaître ce qu'elle fait.
À ce stade, la liste des idées peut être encore modifiée. Plusieurs citoyens prennent alors la parole. Eduardo Forte, un étudiant, demande qu'on ajoute l'histoire de l'Europe au programme scolaire. Le jeune Italien a peur, dit-il, de la montée des mouvements populistes.
Ils rassemblent beaucoup de monde et ils diffusent cette idée qu'on n'a pas besoin de l'Europe. C'est dangereux. Ils diffusent de fausses infos. Et alors certaines personnes, à tort, se mettent à penser qu'on est mieux sans l'Union européenne. C'est faux.
Plus d'Europe, c'est le leitmotiv qu'on entend dans tous les groupes. Reste la question, que vont devenir les propositions de nos euro-enthousiastes? Guy Verhofstadt, coprésident de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne et député belge, assure que tout cela n'est pas qu'une opération de com. La Commission, le Conseil européen et le Parlement ont promis de traduire en actes les idées des citoyens.
On voit très bien qu'on a quand même du mal en Europe de répondre efficacement à des crises. La crise migratoire, on la connaît encore aujourd'hui. Il n'y a pas encore une politique commune au niveau de la migration. Il est clair qu'il faut changer, qu'il faut réformer l'Europe, parce que l'Europe n'est pas capable de survivre le 21e siècle et certainement pas un monde qui est dominé par Chinois, Russes, Indiens, Américains. Une Union européenne qui est encore basée sur les règles de l'unanimité n'a pas de chance de survivre, je crois.
Le week-end se termine par une photo de famille. 20 citoyens sont choisis pour défendre les propositions de ce premier panel devant les institutions européennes en décembre.
La vie politique, c'est sûrement beaucoup de stress, mais quand des députés en viennent aux mains, ils ne donnent pas une image très glorieuse de leur fonction. Est-ce la tension accumulée? En tout cas, au Parlement turc, les débats prennent régulièrement une tournure violente et les autorités, à court de solutions pour remédier à ce problème ancien, viennent de prendre des mesures pour le moins originales, comme nous l'explique notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer.
C'est à croire que l'administration du Parlement turc ne sait plus quoi faire pour amener un peu d'ordre et de sérénité dans ses rangs. Depuis plusieurs années, une série de rapports internes a mis en évidence à quel point les élus étaient non seulement dissipés, mais surtout à quel point beaucoup pouvaient être violents dans leurs paroles comme dans leurs gestes. On ne compte plus les interruptions de séance au milieu de débats houleux, les bagarres générales et même les députés qu'on expédie à l'hôpital pour recevoir des points de suture. Le Parlement tente de faire baisser, au sens propre, la température et la tension électrique qui règnent dans l'hémicycle. On a donc déroulé une moquette antistatique et des fils de cuivre sous la moquette écrue dans l'espoir, je cite la presse turque, de réduire le stress et de prévenir l'accumulation des tensions chez les 600 parlementaires. On a équipé les rangées d'un système de ventilation censé améliorer la qualité de l'air et la quantité d'oxygène. On a aussi changé les bancs, désormais couleur bois de rose, selon la description du secrétaire général de l'Assemblée, et surtout d'aspect mat, pour que l'éclairage ne s'y reflète plus, ce qui apparemment dérangeait les élus. Enfin, pour les députés insensibles à toutes ces attentions, le Parlement a pris une dernière mesure nettement moins élaborée, mais particulièrement efficace, démonter les tiroirs sous les tables de l'Assemblée. Certains avaient pris l'habitude de faire claquer frénétiquement ces tiroirs de bois lors des échanges les plus animés.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la Radio du Monde, RFI.fr, et sur votre plateforme préférée, bien sûr. À bientôt.